19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est le dernier jour de la semaine. Et quand on dit dernier jour de la semaine, nous allons tenter de vous embarquer, bien vous préparer psychologiquement pour ce second tour qui est très attendu, chers amis. Clochette, ah oui, je sonne l'alarme, les amis. Attention au fort taux d'abstention, on n'en veut plus. Clochette. Oui, parce qu'il est important d'aller voter et d'accomplir votre devoir civique. Dimanche prochain, nous appelons à une mobilisation. Vous votez pour qui vous voulez, les amis. Mais il faut aller vous rendre dans les urnes. Allez, au programme. Emmanuel Macron, déplacement en Ukraine, finalement. L'incompris, l'utilité. Pour quelles raisons nous allons décrypter tout cela? Ensuite, les législatives. Les enjeux du second tour. Historiquement bas. Oui, le fort taux d'abstention. Nous allons en parler et puis surtout les abstentionnistes, comment aller les chercher, comment les remobiliser. Tout cela, c'est avec les débatteurs influenceurs Rayed Chaibi, David Libensky et enfin Jean-Claude Beaujour tourneront tout à l'heure avec nous pour confronter leur point de vue. Mais pour démarrer l'émission, l'ancienne ministre de la Ville qui est avec nous, Madame Nadia Hay, qui donc va nous parler, vous savez quoi, de ses résultats, mais surtout de la 7e circonscription des Yvelines. Et puis nous recevrons Rachid Mokrane qui viendra aussi nous parler de la mobilisation des quartiers populaires. À 19h30, c'est Michel Taube, l'éditorialiste, qui viendra nous livrer son regard satirique, certainement, sur le second tour. C'est parti, et c'est en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti pour l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec la ministre de la Ville et surtout candidate dans le cadre de la 7e circonscription des Yvelines, c'est madame Nadia Hay. Bonjour Nadia Hay.
Bonjour Adil Farkan.
Merci d'être avec nous. Vous aviez 13 candidats qui étaient donc en lice et vous retrouvez en tête justement dans la 7e circonscription des Yvelines. Dans quel état d'esprit vous êtes Nadia Hay en ce moment même, à quelques jours, à deux jours, à un jour même, à un jour et demi de ce scrutin qui s'annonce extrêmement, comment dirais-je, avec beaucoup d'enjeux justement Nadia Hay?
Oui, tout à fait. C'est un scrutin avec beaucoup d'enjeux. Nous sommes arrivés en tête du premier tour face à la candidate NUP qui porte les couleurs de cette alliance de circonstances, j'ai envie de dire. Et donc, l'état d'esprit dans lequel nous sommes, parce que je dis nous sommes une équipe, nous sommes concentrés jusqu'à la dernière minute, jusqu'à minuit ce soir. Nous sommes sur le terrain, auprès des habitants, auprès des associations, des entreprises, des élus, pour convaincre finalement du bien fondé de notre projet et pourquoi il va falloir de toute façon voter pour nous ce dimanche. Donc voilà, concentré jusqu'à la dernière minute.
Concentré jusqu'à la dernière minute. Justement, lorsque vous dites que vous êtes concentré, Nadia Hay, jusqu'à la dernière minute, comment essayer de remobiliser, vous savez, cet électorat qui a décidé de bouder le premier scrutin? Qu'est-ce que vous leur dites, justement, pour dimanche prochain?
Eh bien, l'abstention, c'est un mal qui ronge notre pays depuis quelques années maintenant. Chaque année, à chaque scrutin, nous observons une démobilisation de la part des électeurs. Et je constate qu'en fait, il y a un décalage entre l'action qui est portée par les responsables politiques, qu'ils soient à la fois locaux, à la fois nationaux, et le besoin, le quotidien de nos concitoyens. Ils ont l'impression que ça bouge pas assez vite, que ce que l'on fait, ce n'est pas pour eux. Et donc, charge à nous, effectivement, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace dans les différentes mesures que nous portons et les effets que ça peut avoir auprès de nos concitoyens, mais aussi expliquer que finalement, toutes les modifications, tous les changements qui ont lieu en ce moment, notamment la baisse du taux de chômage, notamment l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, eh bien, tout cela est lié aussi à la politique que nous avons portée. J'ai été en réunion publique hier et j'expliquais que finalement, s'il y a des effets positifs que nous observons sur le côté économique, sur les avancées sociales, sur les avancées sociétales, sur les avancées écologiques, eh bien, c'est lié aussi à ce que nous avons fait ces 5 dernières années. Le lien de cause à effet n'est pas toujours établi. c'est à nous de le rétablir en étant au plus près de nos concitoyens, en étant sur le terrain, en descendant des bureaux et être avec les gens, à être sur les marchés, à être dans leur structure, dans leur établissement, pour finalement expliquer ce que nous faisons et puis évidemment prendre aussi leur retour et leur expérience.
Nadia, la 7e circonscription des Yvelines regroupe quelle ville précisément ?
Alors, il y a 14 communes, donc ça va vraiment des villes très rurales.
Les principales villes, oui.
Voilà, Tessancourt-sur-Aubette, mais aussi des villes plus urbaines comme Conflans-Sainte-Honorine, tristement connue sur l'attentat de Samuel Paty, et puis Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet aussi, et évidemment la ville de Chanteloup-les-Vignes, laquelle j'avais exercé quand j'étais ministre.
Vous êtes justement, vous avez l'expérience de terrain, vous avez été député, vous avez été ministre de la ville. Si vous remportez donc évidemment votre siège à l'Assemblée, au sein de cet hémicycle, le Parlement, l'Assemblée nationale, vous représentez la majorité présidentielle. Quelles vont être les premières mesures quel va être l'angle de votre combat, Nadia Hay?
Alors déjà, la première mesure qui va être votée, elle va être en faveur du pouvoir d'achat. Ce que nous observons en termes d'augmentation des prix, l'inflation aujourd'hui, elle touche vraiment tout le monde et particulièrement les plus fragiles. Donc nous allons avoir évidemment à discuter le projet de loi qui est en préparation par le gouvernement pour continuer à maintenir le plafond des prix de l'énergie. Je rappelle que celui-ci est bloqué à 4%. Nos factures d'électricité, d'énergie, elles ont augmenté de 4% et nous l'avons plafonné. Si ce plafond n'est pas maintenu, aujourd'hui, ce n'est pas une hausse de 4% que nous observons, c'est une hausse de 44%. Donc, il est important aujourd'hui de conserver cela. C'est aussi réindexer les retraites sur le coût de l'inflation pour qu'elles puissent aussi obtenir cette augmentation. Et donc, c'est plus de 4% pour les pensions de retraite. Et je peux vous dire, ma mère qui est au minimum vieillesse, c'est quelque chose d'extrêmement important et attendu dans le portefeuille des ménages. Mais également, c'est le chèque alimentaire pour les plus fragiles. Donc, il y a des mesures aujourd'hui qui sont en faveur du pouvoir d'achat, qui sont en préparation et qui vont, si elles sont votées, arriver tout de suite dans le portefeuille des ménages. Et puis, évidemment, c'est ensuite porter le projet du président. Il va y avoir une grosse réforme sur notre modèle éducatif, sur l'éducation nationale, comment on améliore et comment on fait en sorte que l'éducation de nos enfants, l'éducation nationale, puisse avancer en même temps que les transformations de notre société. Donc comment on renouvelle aussi notre système éducatif. Et c'est aussi la santé aujourd'hui, comment on accélère pour que les personnes puissent avoir accès aux soins. Je rappelle juste que la désertification médicale ne touche pas uniquement nos territoires ruraux, elle touche également nos quartiers, nos territoires périurbains et nos territoires urbains. Donc comment on améliore aussi toute l'offre de santé.
Les sondages annoncent second tour de nouveau, hein, un coude à coude avec ensemble la majorité présidentielle et puis la NUPES. Vous dites quoi, vous, Nadia Hay, qui représentait la majorité présidentielle? Vous dites quoi, notamment, lorsque on entend de plus en plus qu'il y a un vote sanction? Vous leur dites quoi et ils vous écoutent, y compris dans votre circonscription?
Vous savez, j'étais au marché de Chanteloup-les-Vignes et pendant un tractage et j'ai tendu l'oreille. J'ai écouté ce que disaient les militants NUPES à nos concitoyens en tractant. Et j'ai entendu tout sauf Macron, faites barrage à la casse sociale, faites barrage aux impôts, faites barrage à ce que cette majorité ne puisse pas avoir accès à la responsabilité parce que justement nous étions les représentants d'une casse sociale. Et je suis allée les voir en leur disant mais qu'est-ce que vous racontez? Ce que vous dites, c'est totalement incohérent, c'est totalement mensonger. Donc les éléments de langage que vous avez ne correspondent pas à la réalité. Parce que aujourd'hui, nous sommes...
Ah ben justement, Nadia, et qu'est-ce que vous livrez comme message à celles et ceux qui vous écoutent?
Eh bien, c'est de tendre l'oreille, évidemment, et d'écouter les débats, mais c'est surtout de lire aussi, de regarder le programme des uns et des autres. Quand j'entends aujourd'hui les militants NUPES et les candidats, ma candidate en face de moi, qui est une socialiste, hein, qui n'est pas de la France insoumise, mais qui me dit sur les 650 mesures, nous n'avons que 30 mesures sur lesquelles l'Alliance n'est pas d'accord, entre le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise. Or, ce sont les 30 mesures fondamentales qui vont mener à un projet national dans notre pays. à savoir la sortie ou non de l'Europe, à savoir la politique en faveur de l'emploi, à savoir même la politique sur nos valeurs républicaines, sur le maintien de nos institutions, leur position sur le nucléaire. Ils sont en désaccord sur tout ce qui est fondamental à l'heure où nous nous parlons. Donc cette alliance de circonstances, qui, je le rappelle, ne sert finalement qu'à les intérêts des uns et des autres qui la portent, mais qui ne sert pas les intérêts généraux, et encore moins les plus fragiles, parce que ceux qui vont souffrir du projet de Jean-Luc Mélenchon sont les classes populaires. Et vous savez, Adil Farkan, à quel point je suis attachée à cette classe-là.
Absolument. Merci Nadia Hay. Vous représentez, donc vous incarnez la 7e circonscription des Yvelines pour la majorité présidentielle des Yvelines. Donc merci d'avoir été avec nous et bon courage pour dimanche.
Merci, merci à vous. Très bonne journée à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent.
Merci. Au plaisir, à très bientôt. Nous enchaînons, nous allons recevoir un autre leader politique qui s'appelle Rachid Mokrane. Bonjour Rachid Mokrane. Bonjour Rachid Mokrane.
Bonjour Adil, comment va ?
Très très bien, merci d'être avec nous dans Les Informés, sur Beurre FM justement. Vous, vous êtes le leader, le fondateur de l'écologie au centre. Dites-moi, je sais que je tenais absolument à ce que vous soyez avec nous parce que notamment ce second tour des législatives est important pour vous. Parlons-en justement, Rachid Mokrane.
Ben, je crois que, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans la cour des grands. Quand on voit qu'on a fait une moyenne de 3,5 au niveau national... Donc l'écologie au centre, c'est un mouvement qui rassemble et qui fédère des forces citoyennes, des écologistes indépendants, des régionalistes, des citoyens qui, depuis trop d'années, en ont ras-le-bol, qui ont décidé eh bien, de rassembler leurs forces et leurs énergies pour mettre l'éthique de la responsabilité, la moralisation de la vie politique et l'écologie au cœur de leurs projets de société.
Alors, et donc aujourd'hui, vous avez un message, je pense. Quel est ce message? Parce qu'on arrive évidemment, parce qu'on doit dans quelques minutes, on doit lancer la pub. Mais je veux absolument que vous lanciez ce message, mon cher Rachid Mokrane.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour clarifier la chose, nous ne soutenons aucun parti politique. Par contre, il y a des endroits où on a des candidats et des candidates qui ont prouvé par le passé leur action. Et que ça soit, il y a eu un ou deux candidats que nous avons soutenus pour la NUP. Et il y a aussi Amélie de Montchalin, qui aujourd'hui est la ministre de la Transition écologique pour la 6e circonscription de l'Essonne. C'est une femme qui a été fidèle à son territoire et qui aujourd'hui a énormément mené d'actions en direction des populations et notamment celles des quartiers populaires. Moi, je la connais bien pour avoir initié des actions avec elle, des actions concrètes. Et donc aujourd'hui, nous ne soutenons pas forcément Macron, mais elle... particulièrement parce que c'est une femme qui a prouvé, en tout cas la communauté française, de la communauté musulmane, qui je pense serait bien qu'elle lui rende massivement, parce que nous on n'a pas la mémoire courte quand on voit par exemple que Monsieur Gedge, qui s'est opposé à la création d'un lieu de culte, participant ainsi à la stigmatisation, la diabolisation et la désignation d'une communauté, alors que Monsieur était au Parti Socialiste. Et on sait aujourd'hui que la seule à qui, aujourd'hui, la communauté musulmane peut faire confiance, c'est Amélie de Montchalin.
Merci d'avoir été avec nous, Rachid Mokrane, l'écologie au centre, le fondateur. Merci, Rachid Mokrane.
Merci beaucoup.
Merci, au plaisir. On se retrouve, on lance la pub et on se retrouve tout de suite après avec nos débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
De retour sur le plateau, justement, le face-à-face, c'est parti, cher monsieur, chère madame.
Les Informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Très solennel tout ça, hein, vous voyez. On essaie de finir le week-end tranquillement. Rayed Chaibi, le président, le boss de l'association France franco-tunisienne, justement, de la coopération franco-tunisienne. Ça va, patron? Qu'est-ce que vous faites, Raya? Allez, il a droit une clochette, direct. Hein, il faut l'attaquer! Non mais ça va pas.
C'est votre entrée en matière que j'adore.
Mais toujours. Je vous surprends. Deux maîtres aujourd'hui, deux avocats. J'ai pas fait exprès, les amis. Je vous promets, j'ai pas fait exprès. Maître David Levitsky, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Bon, tout va bien?
Ça va très bien.
Notamment, on vous a connu d'avoir été l'avocat des Gilets jaunes.
Oui.
Pourquoi
toujours,
Pourquoi vous vous faites ça là quand je vous dis ça?
Toujours.
Vous assumez pas? Ah, vous êtes toujours l'avocat des Gilets jaunes?
Oui, parce qu'il y a encore des litiges qui sont en cours, qui ne sont pas réglés. Hein.
Un autre avocat qui défend autre chose aussi. Hein. C'est Maître Beaujour, comment ça va?
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, il fait beau.
C'est agréable. Hein
oui.
C'est rare de vous voir en chemise, simplement sans cravate. Bah, hein. Il a fait tout tomber, hein. Oui, la veste, ouais. D'habitude, je vois toujours en costume. Sauf quand il est sur CNews, il est avec la cravate. Mais chez nous, non.
Toujours élégant. Hein.
Ouais, toujours.
Oui, mais on peut faire tomber la cravate et être correctement mis.
C'est vrai, vous avez bien rien. Les avocats, ils ont toujours un truc à glisser.
Je vais vous dire pourquoi je revendique la cravate. C'est parce qu'on parle beaucoup d'égalité hommes-femmes. Les femmes ont beaucoup d'éléments de, j'ai envie de dire, de coquetterie. Et nous en avons peu. Nous n'en avons que très peu. Mmh. Et c'est vrai que la cravate peut être un élément d'habillement, tout comme la pochette. Et vous savez.
La montre souvent.
Ça peut être la montre, mais ça peut. Hein. Quel que soit. Bah, vous savez, moi, j'ai pas de Rolex. Donc j'ai peut-être loupé ma vie.
Vous avez loupé votre vie, j'y crois pas une seconde.
Mais en revanche, j'ai une belle collection de cravates et de bretelles et de chaussettes.
Oh là là, la classe dans toute sa splendeur. Allez messieurs, tout de suite, nous allons démarrer ce premier sujet. La guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, son déplacement. Paraît-il qu'il est l'incompris à Kiev. Et puis surtout, l'utilité de ce déplacement. Alors parlons-en justement, mettons les pieds dans le plat. Maître David Lebesgue, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement?
Ben, on peut rien retenir, hein. On voit pas trop l'utilité. Bon, il a rencontré le chancelier allemand, le chef du gouvernement italien, mais c'est plus en fait en vue de l'élection. C'est un petit peu la manipulation, si j'ose dire.
Oui, allez-y.
Ouais, c'est de la manipulation. C'est dans la tradition de la Ve République, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, le président sortant fait des déplacements à l'étranger pour honorer son image. C'est complètement dans ces traditions.
Était-ce le moment, justement? Beaucoup se disent, le moment où...
Il avait fait un déplacement, je crois, avant le premier tour des élections.
En plein second tour, d'ailleurs.
L'étranger, oui. Oui, tout à fait. Non, c'est le bon moment peut-être pour lui, pour honorer son image, pour apparaître comme un chef de guerre, pour séduire l'électorat de droite qui est très sensible à ce côté patriote, entre guillemets, si j'ose dire. Mais est-ce que ça va porter ses fruits? Bon, je suis pas sûr, parce qu'on a... Personne, en fait, a vu l'utilité... De ce déplacement.
L'utilité de ce déplacement, c'était pour accélérer le processus justement de l'entrée de l'Ukraine en Europe.
Oui, mais ça il le répète depuis des semaines.
Donc, pour moi,
il n'y a aucune utilité.
Maître Beaujour.
C'est même pas un sommet européen.
Je vais m'adresser à votre confrère. On va voir s'il partage votre point de vue.
Oui, bien que nous ne soyons pas les avocats de tel ou de tel, moi je ne partage pas du tout ce point de vue. Parce que je crois qu'il ne faut pas être...
Et c'est le lieu, tant mieux.
Il ne faut pas être naïf. Un homme politique fait de la politique. Mmh. Qu'il s'appelle Emmanuel Macron, qu'il s'appelle Jacques Chirac, le général de Gaulle. Le général de Gaulle théâtralisait tous ses déplacements, François Mitterrand. Et un homme politique, il n'y a pas de politique sans communication. Pardonnez-moi, mais on serait naïf de croire le contraire. Mmh. Quel que soit, je dis bien quel que soit les partis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le fond, il y a deux aspects. Mmh. La date... Je crois que les éléments sont peut-être, on le saura peut-être un jour, s'il écrit ses mémoires, sont peut-être un peu plus complexes. À quel moment aller, parce que finalement on est en
train de... Mais on lui a longtemps reproché, on lui dit ouais,
mais si vous me laissez parler, bien je vais vous dire, je sais ce qu'on reproche. Je sais ce qu'on reproche.
Justement, vous avez anticipé,
on lui reproche
c'est
d'être
bien.
Allé parce que on est en campagne électorale. Parce que
c'est un peu la crise, là.
Il y a un scrutin. Mais vous savez, depuis janvier, on est en campagne électorale. Le conflit a commencé s'est radicalisé en février. Faut bien y aller à un moment donné. Il l'aurait fait entre avant, on lui aurait dit. Donc
attendez,
parce que
vous répondez, il aurait pu y aller la semaine prochaine.
Il aurait pu y aller la semaine prochaine. Vous pensez qu'un conflit de cette nature, vous avez vraiment le choix sur l'agenda à ce point? C'est pas, vous avez deux autres chefs d'État qui étaient présents avec lui. Il faut sécuriser et puis vous avez la présidence de l'Union européenne qui se termine dans 15 jours. Alors je comprends les questions.
Je précise.
Il vous a répondu, Maître Lebesgue.
Mais moi j'entends. On a le droit de se poser la question. Maintenant, je réponds. Mais sur le fond, est-ce que ça va tellement jouer sur les résultats de la législative? Je ne pense pas. Je pense que les électeurs ont dans leur circonscription des hommes et des femmes.
Maître Jean-Claude Beaujour.
En fonction de la configuration, ils voteront. C'est pas
on
ça.
On en parle dans
c'est
une poignée de minutes.
C'est pas la photo d'hier. Et le dernier point.
Oui.
Sur l'intérêt du déplacement lui-même, je crois que de montrer à ce stade du litige que l'Union européenne se renforçait, en tout cas parlait d'une seule voix C'était important. N'oublions pas qu'il y a quand même un peu la concurrence américaine, parce qu'à un moment donné, on a vu que les Américains ont franchement pris le pas, et nous, nous comptions comme une variable un peu d'ajustement. Eh bien, on va prendre la main. On peut, j'entends bien la question qui se pose, mais je dis que dans la gestion d'un conflit, il n'y a pas de sous-effort. Chaque petite mesure, ou même si c'est une mesurette pour certains, peut conduire.
Alors pourquoi il est incompris? Pourquoi à Kiev, en visite à Kiev, justement, il est incompris? Parce qu'il n'a pas forcément été accueilli. On lui a reproché notamment l'ambiguïté vis-à-vis de l'Ukraine, en remettant en cause sa sincérité, etc. Vous voyez, ça aussi, hein, ça joue sur la cote de la popularité,
savez,
non?
Vous savez, oui, mais bon, il a été réélu, ça c'est une chose. Donc, entre nous, pour lui, l'affaire est entendue. Sur la gestion du conflit vous savez, moi je pense que quand on relit un petit peu l'histoire, et quand on fait preuve de peu de recul, on sort Monsieur Macron en tant que tel de la gestion de ce litige. Un litige de cette nature est extrêmement complexe. Vous avez les parties qui sont à la table des négociations. Vous avez les parties qui ne sont pas à la table des négociations, mais qui vont peser. Vous avez des intérêts. Quel que soit ce qu'on peut penser, quel que soit le régime politique.
En tout cas, tout ce qu'il a fait n'a rien donné jusqu'à maintenant.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Vous savez,
c'est ce qu'on voit.
Vous savez, la politique des petits pas. Voilà. Quand vous êtes avocat comme moi, vous savez que parfois, avant d'arriver à l'aboutissement d'un dossier, il faut avoir plusieurs petits pas.
Sauf que là, il y a des médiations
qui se font de manière non officielle. Il y a des contacts qui se prennent. Vous savez, je pense que bien malin celui qui pourrait dire qu'il a la vérité absolue.
Maître
Beaujour,
je voudrais qu'on écoute. Maître Jean-Claude Beaujour, je voudrais qu'on écoute justement Raïd Chaïbi. Raïd Chaïbi, sur ce point, en Ukraine, à Kiev, l'incompris, est-ce que ce voyage est inutile ou pas du tout? Que retenez-vous?
Deux observations, une sur la forme et l'autre sur le fond. Sur la forme, pour moi, il est tout à fait normal que le président de la République, accessoirement président en exercice de l'Union européenne, se déplace en Ukraine avec ses homologues pour... à l'évidence, discuter de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. En moment d'ailleurs, je crois la réponse devrait, enfin, pour qu'elle soit candidate en tout cas. Donc c'est pas étonnant. Et puis de toute façon, en tant que président en exercice de l'Union européenne, c'est son rôle également. Enfin, on a un conflit qui est aux portes de l'Europe, donc il est tout à fait normal qu'il y aille. Sur la remarque s'agissant du calendrier électoral, la géopolitique n'attend pas le calendrier électoral.
Français,
en tout cas. Donc ça, je n'y crois pas un seul instant, et je pense pas que ça soit cette excuse de dire.
C'était planifié très longtemps à l'avance.
Attendez, hein. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. De dire qu'il y va parce qu'il y a des élections législatives. Pardonnez-moi, mais si vraiment ça avait une incidence.
Attendez, Rayad, qu'est-ce qu'il dit, Maître Limeski?
Non, mais attendez, mais
qu'est-ce qui vous arrive, Maître David Limeski?
Attendez,
je vous écoute attentivement.
Non, mais vous êtes naïf tous les deux.
Excusez-moi, je vous écoute attentivement.
Merci pour notre naïveté.
Je vous ai écouté attentivement.
Et qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné.
Attentivement.
Il n'y a aucune action à part visiter, en fait.
On vous écoute, à l'aise, s'il vous plaît, avant de retrouver Michel Taube. Maître David Limeski, je reviens vers vous inquiétez pas, je vous redonne la parole.
Raïd Chaïbi. Vous écoutez très attentivement.
Bien sûr, Maître Beaujour.
S'il vous plaît. Donc, cette excuse un peu sortie de je ne sais où, de dire oui, mais il y a un calendrier électoral, pardonnez-moi, je vais vous le dire clairement comme je le pense. En tout cas, dans les quartiers où je vis, ils s'en foutent de savoir est-ce que le président de la République est parti ou pas en Ukraine. Ce qui les intéresse, c'est comment faire en sorte demain d'avoir une vie meilleure, un cadre de vie meilleur, un emploi et de l'argent. Il n'y a pas d'incidence sur les résultats, sinon on l'aurait vu, on n'aurait peut-être pas un fort taux d'abstention comme ça. Il y a un calendrier géopolitique, il est comme ça, il est président en exercice de l'Union européenne.
Monsieur.
Et donc, pardonnez-moi, Adil.
Allez-y rapidement, parce qu'on doit retrouver le quoi de neuf.
Je suis désolé. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on critique. Oui, mais il est allé, c'est pas utile, etc. Mais il y va et il parle avec Zelensky et avec Poutine. S'il ne parle pas, qui va parler avec eux?
Il parle au téléphone, déjà. Il n'a pas besoin de se déplacer.
Justement,
deux jours avant l'élection législative.
Ça n'a aucune incidence. Ça n'a strictement aucune incidence.
Revoyez quand même la tradition.
Il est président de l'Union Européenne, c'est son rôle d'y aller. Au moins, il y va.
Tous les présidents de la République qui se sont représentés,
on
fait un déplacement à l'étranger pendant la campagne électorale.
Le quoi de neuf, je le lance et on revient débattre justement le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Et je vous redonne justement le face-à-face. On les retrouve. Michel Taube, l'éditorialiste, le patron d'Opinion Internationale. Bonjour Michel Taube. Michel Taube ? Allô ?
Oui.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur justement sur ce second tour. On vous donne la parole. On vous écoute, mon cher Michel Taube.
Bonjour Adil Farkan et bonjour aux auditeurs de Beurre FM. Alors, comme vous le savez, hier, Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine avec ses homologues allemands, italiens, roumains pour rencontrer M. Zelensky, le président de l'Ukraine, et apporter le soutien de l'Europe et de la France notamment à l'Ukraine. Oui. Alors, c'est important parce qu'on vient d'apprendre que la Commission européenne, comme Emmanuel Macron, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie, allait proposer la semaine prochaine que l'Ukraine puisse immédiatement être candidate à l'adhésion à l'Union européenne d'ici quelques années, 10-15 ans. Mais c'est pour moi une bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut soutenir l'Ukraine et quand il y a une guerre, il faut faire des choix. Mais c'est pas là-dessus dont je voudrais parler. En fait, je voudrais m'étonner et vraiment regretter, je ne suis pas le seul, que Emmanuel Macron ait fait ce déplacement très important sur le plan diplomatique à deux jours des élections du deuxième tour.
Maître David Lévesquide sur notre plateau.
Et en fait, honnêtement, je pense qu'il aurait mieux fait de faire campagne sur le terrain. Parce que Elisabeth Borne, qui est la première ministre, qui a beaucoup de qualités, qui est certainement une femme très compétente, mais c'est pas un animal politique, c'est pas une personne qui, face à un Mélenchon, face à une Marine Le Pen, face à des rivaux politiques, est à la hauteur. C'est pas son job, on le voit bien. Et donc Emmanuel Macron aurait dû s'impliquer davantage dans la campagne des élections législatives et il ne l'a pas fait. Et pourquoi il a préféré aller en Ukraine? Et ça, c'est là que je voulais en venir. C'est qu'il faut revenir fin février. Le 24 février, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, en une semaine, Emmanuel Macron a gagné 8 points dans les sondages. Le président de la République, qui était candidat à l'élection présidentielle, le candidat Macron, le candidat président sortant, a gagné 8 points dans les sondages. Et après, il est resté extrêmement haut. Et donc, l'effet de la guerre, tous derrière le chef, tous derrière le chef de guerre, qui était un petit peu Emmanuel Macron symboliquement, eh ben, ça lui a permis, ça l'a aidé considérablement dans sa victoire à l'élection présidentielle. Et donc je pense que le pari qu'il a fait, c'est il vaut mieux qu'il aille en Ukraine, qu'il joue les chefs de guerre, une fois de plus, à deux jours d'une échéance extrêmement capitale, et ça va aider ses troupes à peut-être éviter une catastrophe, parce qu'on sent bien que la NUPES, l'Union des Gauches, est en train de porter, et Mélenchon ne sera peut-être pas Premier ministre dimanche soir ou la semaine prochaine, mais on sent bien qu'il y a une dynamique à gauche et que Emmanuel Macron s'est peut-être dit il vaut mieux la jouer, la carte un petit peu guerrière, je suis un homme de la paix, je porte les couleurs de la France sur un terrain de conflit, plutôt que d'aller de marché en marché dans une banlieue, dans une commune de la ruralité, et il sera peut-être dit. Mais je pense que les Français n'apprécient pas qu'Emmanuel Macron fasse de la politique internationale au service d'une campagne électorale et de petits calculs politiciens. Je pense que c'est très, très dangereux et qu'Emmanuel Macron joue avec le feu. Il a longtemps eu la baraka. Je me demande s'il n'est pas en train de la perdre.
Merci, mon cher Michel Taube. Merci, à vendredi prochain sans faute.
À vendredi prochain sans faute.
Merci à vous. On lance la pub avec un peu de retard, oui. Mais bon, on se retrouve tout de suite après avec nos débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés avec Rayed Chaibi. Les Informés, c'est avec Maître David Limeskid et enfin avec Maître Jean-Claude. Bonjour messieurs, je vous redonne la parole concernant donc le déplacement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État en Ukraine. Dans l'ordre, il y avait Rayed Chaibi, Maître Bonjour et Maître David Limeskid.
Oui, juste pour finir avant de vous passer la parole, cher Maître au pluriel.
C'est ça.
Juste pour, il faut savoir quelque chose aussi, ce qui est important, c'est que lorsque le président Zelensky a un message à faire passer au président Poutine, par qui passe-t-il? Par le président Emmanuel Macron. Écoutez, j'ai envie de vous dire, quand il a un message à faire passer, il le fait passer par le président Macron parce que c'est l'un des rares au sein de l'Union européenne
à mon avis, hein.
qui Je ne pense pas que le contact est aussi fluide entre le président Biden et le président Poutine. Ça m'étonnerait fort. Mais en tout cas, il passe par le président Macron parce que c'est l'un des seuls, en tout cas, qui ou l'un des rares, qui peut dire à Poutine les choses clairement. Ensuite, sur l'utilité, parce que l'utilité, sur quoi se base ? Enfin, la question, c'était, c'est est-ce que c'est utile à partir du moment où il considère qu'il faut ménager la Russie, ménager le président Poutine, etc. Emmanuel Macron fait tout simplement ce qu'on appelle de la realpolitik. Il voit la situation telle qu'elle est. Et donc, même si effectivement il y a la nécessité de rester extrêmement ferme avec Vladimir Poutine, néanmoins, il faut qu'il y ait un dialogue et il faut sortir de cette crise. Quand vous êtes en face d'une superpuissance nucléaire de surcroît et avec une personnalité très complexe et dont on sait même pas où est-ce qu'il veut aller comme Vladimir Poutine, il y a nécessité de garder le dialogue et de faire en sorte que chacune des parties puisse essayer de trouver une solution et de sortir par le haut d'une crise qui a fait quand même pas mal de ravages.
Maître Jean-Claude, bonjour.
Je peux pas laisser dire, puisque l'un des débatteurs a dit que nous étions des naïfs. Je suis scandalisé parce que le mot, je vais vous dire, parce que les mots ont un sens.
Oui.
Je vais vous dire, le mot naïf.
Là, vous vous adressez à Maître David Levitsky, là.
Oui,
il est avocat, donc il sait de quoi. Il connaît le sens des mots.
Mais attendez, vous permettez que je réponde.
Bien sûr.
Mais je vais le rappeler. Le mot naïf pour nos auditeurs, c'est crédule, niais, simple. Je vais vous dire, moi, je réfléchis depuis maintenant 30 ans aux situations de conflit dans le monde et j'ai un petit peu travaillé avec des gens qui, eux aussi, des organisations non gouvernementales, avec des gens à tous les niveaux, y compris avec des diplomates les plus chevronnés, des diplomates français les plus chevronnés. Donc, à un moment donné, nous ne parlons pas simplement de communication, nous parlons de la manière dont les choses se passent en réalité sur le terrain. Moi, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas candidat à quoi que ce soit, je suis pas là pour racoler les électeurs, je suis là pour dire qu'un conflit est extrêmement complexe. Reprenez l'histoire, vous verrez que même en temps de guerre, il y a de la communication entre les parties. Par exemple, je vais vous prendre très concrètement un exemple aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, Poutine, à l'intérieur de ce conflit, est-ce que la Russie va lâcher sur la question du blocage des engrais, des matières premières dont on a besoin pour ne pas voir exploser le reste de la planète?
Oui.
Voilà, c'est une question. Et comment va-t-il lâcher? Comment va-t-il lâcher? Vous pensez qu'il est simplement dans son bureau, il dit je lâche? C'est parce qu'il y a des contacts.
Mais sur le gaz, il a lâché déjà.
C'est ce que je vous dis, c'est qu'à l'intérieur de ce conflit, il y a des contacts qui sont entretenus, y compris entre les parties. Donc ce que je veux dire, et je ne suis pas naïf, je vais vous dire, c'est qu'il y a un conflit.
Donc il retoque Clochette, Maître David Levitsky.
Et moi je
c'est votre naïveté, Maître David Levitsky.
C'est parce que je vais vous dire. Il y a cette tendance d'un certain nombre, lorsque vous avez un raisonnement à peu près équilibré parce que vous entendez ce qui se fait. Et quand je dis équilibré, ça ne veut pas dire que sont pas équilibrés. On vous traite de naïf parce que seul serait dépositaire de la vérité.
Ah, vous l'avez vexé là. Répondez-lui.
Vous n'êtes pas dépositaire de la vérité.
Maître David
Levitsky, s'il vous plaît,
messieurs, il va répondre, s'il vous plaît.
C'est très choquant.
Alors, je n'ai jamais, en fait, prétendu à être dépositaire de la vérité, mais je confirme qu'il y a une forme de naïveté à croire, en fin de compte, que ce déplacement d'Emmanuel Macron était opportun. La date était arrêtée depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai parlé de naïveté. Les médias l'ont indiqué. La date était arrêtée depuis longtemps. Et comme par hasard, elle a été arrêtée le jour, deux jours avant les élections législatives, comme la date des élections législatives.
Mais je vous ai dit, dès le départ qu'un homme politique fait de la politique. Et si vous étiez en politique, vous feriez de la politique.
Pourquoi vous le dites qu'il est naïf? Je ne suis pas naïf.
Je dis qu'un homme politique fait de la politique.
Voilà,
et vous-même, vous faites de la politique.
On n'est pas dupes.
Et j'ai aussi dit.
Vous êtes d'accord que le déplacement, il a été passé.
Mais je suis d'accord. Je vais vous répondre très clairement.
Vous dites oui ou non. C'est pas compliqué.
Mais ma réponse, elle est simple. je ne suis d'accord sur rien car je ne sais pas.
Mais je vous ai posé une
question. Je n'ai pas d'éléments. Mais monsieur, je n'ai pas d'éléments.
Mais tous les déplacements des chefs d'État sont planifiés à l'avance.
Vous pensez que sur les marchés, ils vous parlent de ça?
Non, non, surtout quand on rencontre.
Mais je pense que.
Ce que soulève comme point maître David Levitsky, je vous promets, ils en parlent partout.
Mais que les gens en parlent.
Je viens de vous dire.
Je viens de vous dire deux choses.
Je viens de passer quelques jours sur l'antenne, on en parle. On n'a pas arrêté d'en parler.
Mais bien sûr qu'on le dit, tout comme on a dit beaucoup de choses dans beaucoup d'élections.
Ça fait débat, ça fait débat.
Je viens de vous dire que un homme politique fait de la politique.
Exactement.
Donc quel que soit l'homme politique, il prend l'option qui lui est la plus favorable. En général, c'est comme
donc
ça que ça se passe.
Il a choisi la date
deuxièmement,
de manière volontaire.
Monsieur, deuxièmement, j'ai dit, je ne peux pas répondre, je ne sais pas.
Non mais attendez,
je ne vais pas
c'est
vous
clair,
raconter.
Comme de notre roche.
Mais attendez, mais voilà, vous
son
êtes
déplacement
détenteur,
a été planifié deux jours avant les élections.
Vous êtes détenteur de la vérité, c'est clair comme de l'eau de roche.
Il y a une intention électoraliste.
Je suis
vous êtes détenteur
surpris.
De la vérité.
Je suis
non.
surpris.
Maître Lévesque.
Vous êtes détenteur de. Vous voyez, c'est ça qui fait du mal à notre pays. Que vous ayez un point de vue
qui soit. Il y a autre chose qui fait du mal.
Que vous ayez un point de vue différent, je l'admets. Que vous ayez un soupçon, une réserve, je l'admets. Que vous disiez. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc
bien
votre
sûr,
argument
clair.
Est clair et oui. nous sommes des naïfs.
Vous dites, les points divergent visiblement.
C'est très intéressant.
Non, mais je vous rassure, c'est un polémiste. Hein.
Moi je le suis
tous
aussi.
Tous les vendredis ici.
Je le suis aussi. C'est ce que
il
je
fout
le
dis. Bazar.
Il est détenteur. Détenteur de la vérité.
Avec un mot qui s'appelle la
méchriette. C'est ce qui est scandaleux pour notre pays et c'est pour ça qu'on se polarise. On se polarise comme aux États-Unis. Il vous dit. Qu'il est détenteur de la vérité.
Est-ce que j'ai
et moi,
dit ça
je dis.
Je n'ai pas le souvenir. Tout, hein.
Vous avez dit, c'est clair comme
en
de l'eau de roche.
C'est une surinterprétation des
ah bon
mots que
vous venez. Attendez. Vous pouvez repasser
et ces deux
ce
avocats,
qu'il a dit.
Et ces deux avocats qui
pouvaient vous. Pouvez-vous repasser ce qu'il a dit.
Il a dit. Je vais faire le juge.
Il a dit, c'est clair comme de l'eau de roche.
C'est vrai.
C'est clair. Il vient de dire, c'est clair.
Je l'ai entendu.
C'est clair comme de l'eau de roche.
On n'a pas besoin de faire un replay.
Parce que vous pensez que parce qu'il n'y a pas que vous, c'est la vérité.
Éditorialistes sur les médias mainstream.
Et alors. Donc, parce que vous pensez que parce que la majorité
c'est un plateau télé,
c'est
pas habituel.
Parce
que
c'est news, même c'est
parce
news.
Et alors.
Alors messieurs, tout de suite, je voudrais s'il vous plaît, je voudrais qu'on parce qu'on est quand même, on arrive au terme de cette émission, les enjeux de ce second tour, messieurs, vraiment de grâce. Moi, je suis préoccupé parce que il va falloir qu'on remobilise les abstentionnistes. Et puis surtout, que va-t-il se passer dimanche prochain? Et puis ce nouveau visage du Parlement, de l'Assemblée nationale. Alors, tiens, Raed Shaibi. Non, parce que je parlais d'Ahmed Shriyeh tout à l'heure. Raed Shaibi. Ensuite, dans l'ordre, Maître David Levitsky, des Maîtres Jean-Claude Beaujour.
L'enjeu, il est multiple. D'abord, il faut que les abstentionnistes aillent voter, peu importe leur choix, en toute objectivité.
Mais ce second tour est préoccupant.
Il est préoccupant, mais surtout.
Avec qui
il
va gouverner?
Emmanuel Macron. Déjà, le premier problème, c'est que les abstentionnistes se déplacent. Ensuite, la seconde problématique, effectivement, c'est de savoir est-ce qu'il aura une majorité relative ou pas. S'il a une majorité relative, ça nécessitera à ce qu'il puisse être peut-être que la majorité, en tout cas la future majorité, en tout cas je le souhaite, puisse être davantage à l'écoute des et négocie. Et donc le véritable enjeu aussi, c'est que on ait une majorité pour pouvoir réformer. Parce que si effectivement on a une majorité de gauche, j'ai peur effectivement que la France soit ingouvernable.
Ah ça, Maître David Levitsky.
Alors effectivement, il y a un grand enjeu pour dimanche prochain.
Oui.
Parce qu'on ça pourrait si les gens ne se mobilisent pas, on pourrait aboutir à une crise politique.
Oui.
Donc il y a voilà
la 4e République.
Donc il y a deux options, soit NUPES ou soit Emmanuel Macron. De toute façon, si les sondages se confirment au niveau du résultat de dimanche, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est une majorité relative, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il négocie. Il va négocier avec qui? Évidemment, on le sait tous.
LR.
Avec LR, et il sera obligé de remanier son gouvernement pour faire entrer des ministres LR dans le gouvernement.
Je pense pas que la préoccupation de nos électeurs soit quel ministre rentre ou quel ministre sort. Il y a des préoccupations de terrain. Deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, en 88, Michel Rocard a gouverné et a fait une bonne politique. Il y a eu de la croissance et c'était une majorité relative. Je pense que Madame Borne a une certaine expérience. Donc on verra l'action. La deuxième chose, Vous avez posé aussi une question sous-bassement, c'est le rôle du Parlement. Je pense que, quels que soient les hommes et les femmes qui entrent...
Ça va être le bazar, cette histoire,
non ? Non, je pense...
Donnez-moi l'expression.
Je pense que nos institutions sont faites de telle manière qu'il y aura une certaine stabilité. En revanche, les parlementaires... un certain nombre assumeront le rôle qui est le leur. Et justement, nous devons faire en sorte que le Parlement soit un vrai lieu de débat pour que le débat ne se fasse pas...
Ça va être compliqué, les amis. Maître Beaujour, je ne vous l'apprends pas, ça va être compliqué, chers amis.
Oui, mais les uns et les autres seront face à leurs responsabilités. Quand quelqu'un veut devenir Premier ministre et qu'il nous dit que les policiers tuent, moi, pardonnez-moi, ça me choque.
Les policiers tuent.
Non, il a dit la police. Pardonnez-moi, la police.
Vous dites aussi ça,
c'est ça, c'est son problème. Il dit la police, et c'est récurrent.
C'est pas le débat.
Moi, je respecte.
Mais c'est pas le débat.
C'est le débat.
Chef du gouvernement,
on est chef de l'administration. C'est le débat.
Vous reviendrez en parler.
Alors, donc, ça veut dire que ça sera. Ça veut dire qu'on aura.
Moi, je vous remettrai premier ensemble. Je vous mettrai en face, face à l'autre.
Nos auditeurs demandent la sécurité dans nos quartiers.
C'est vrai.
La sécurité dans nos quartiers. C'est ça le problème de nos quartiers. C'est
qu'on les a abandonnés. Merci, maître Jean-Claude Beaujour. David Leveskid, merci, je connais, je sais quand même. Rayed Chaibi, le président de l'association de la coopération franco-tunisienne à la réalisation,
merci,
c'était Giovanni. Bilal Nedman, vous retrouvez tout de suite dans une poignée de minutes avec Time Sport. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Mais surtout, chers amis, qu'est-ce que je vais inviter à nos auditeurs à faire ? Allez, votez dimanche prochain.
Tout à fait.
Votez, accomplissez. Et on ne lâche rien. À lundi avec autant de plaisir pour l'émission spéciale des résultats. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.